Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Women in Copernicus.
Women in Copernicus est une initiative née en 2020 sous l'impulsion de 7 femmes actives dans les programmes de l'observation de la Terre de l'Union européenne.
Nous partageons la volonté de donner la parole aux femmes, d'être plus visibles et mieux reconnues dans un domaine où nous sommes souvent peu représentées.
Nous avons voulu, Roberta, Gwenaëlle, Guglielmo et Marie, vous raconter des histoires de femmes, ici, en Bretagne.
Avec elles, nous vous ferons découvrir un domaine qui nous passionne, autour d'images satellitaires, de technologies, de compétences et bien sûr de femmes.
On accueille pour ce 5e épisode Charlotte Brabant, qui est doctorante à l'Université de Rennes 2 dans un laboratoire de télédétection, et elle s'est passionnée pour la recherche et l'enseignement. C'est peut-être pour ça qu'elle aborde avec beaucoup de calme et de pédagogie les questions de genre. Avant de décrocher une bourse de post-doctorat, elle a obtenu 2 diplômes, l'un en géographie, plus précisément en télédétection, et l'autre en écologie.
De prime abord, c'était en fait vraiment l'écologie qui m'intéressait. J'ai préféré partir en géographie parce que pour moi, ce serait plus facile dans le sens où il y avait moins de compétences scientifiques qui étaient peut-être demandées, plus des techniques générales. Et donc, j'ai choisi de d'abord aller en licence de géographie avant de me diriger vers un master en écologie. Ce master en écologie, d'ailleurs, a été une sacrée marche. Donc, c'était un master à Rennes 1 qui s'appelle « Gestion des habitats et des bassins versants ». Mais qui m'a au final amené énormément de compétences sur tout ce qui est aspect floristique, donc développement de la végétation, toutes les différentes espèces, les diversités, même au niveau de l'écologie du paysage, comprendre comment spatialement un paysage est organisé. Et puis après, j'ai fait quand même le choix de revenir en géographie parce que j'avais besoin de justement de cette spatialisation qui est amenée par la géographie, notamment au niveau des SIG et de la télédétection. Ça amène énormément de compétences, ça te permet de faire le lien, en fait, on va dire, entre les deux disciplines.
Maintenant, les études de Charlotte portent sur les îlots de chaleur urbains, souvent désignés par l'acronyme ICU, ICU. On fait référence à ces termes pour parler d'un phénomène météorologique particulier. Les températures sont plus élevées en ville par rapport à la campagne ou à proximité de la zone urbaine, et parfois avec les mêmes conditions météorologiques. Lors de la nuit, on peut alors mesurer des différences de plusieurs degrés entre le cœur de la ville et la campagne. Ces différences de température sont liées aux activités humaines, à la structure de la ville, aux matériaux urbains des bâtiments, des places, des rues. Pendant sa thèse, Charlotte cherche à comprendre l'impact des îlots de chaleur urbains sur la végétation, et elle le fait grâce à un réseau de plus de 100 capteurs disséminés dans la ville de Rennes. Ces capteurs permettent de mesurer ces phénomènes qu'on peut décrire comme un dôme des chaleurs sur nos villes.
Donc on a essayé de définir ce terme d'îlot de chaleur urbain. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus et aussi surtout nous expliquer pourquoi c'est important de réaliser le suivi de cet îlot de chaleur et pourquoi c'est important d'étudier son impact sur la végétation?
Déjà tu l'as très bien défini en fait. L'îlot de chaleur urbain, c'est vraiment un dôme de chaleur recouvrant une ville comparativement à la campagne. S'il est important de l'étudier, c'est parce que forcément derrière, tu vas avoir des enjeux extrêmement forts d'un point de vue des populations, puisque par exemple, lorsque tu vas avoir des grosses vagues de chaleur qui vont arriver sur ton territoire, notamment en été, le fait d'avoir un îlot de chaleur urbain forcément va faire cet effet de cumul en fait, et donc va provoquer des chaleurs qui vont être plus fortes encore en ville par rapport à la campagne, et donc forcément, ça va présenter un risque pour les populations. Après, d'un point de vue biodiversité, encore une fois, cet îlot de chaleur urbain, il peut provoquer en fait ce qu'on va appeler un développement de la végétation qui est beaucoup plus précoce en printemps, mais également en fait, s'il est très présent en automne, peut provoquer aussi un retardement de croissance en fait au printemps qui suit. On a un besoin de comprendre comment il va impacter la végétation pour prévoir aussi comment va répondre cette végétation par rapport au que ce soit de l'îlot de chaleur urbain, mais aussi plus largement au changement climatique par la suite, puisque en fait, nous, on utilise l'îlot de chaleur urbain comme un observatoire de ce changement climatique futur à venir, puisque forcément, tu as des températures, comme tu l'as dit, qui sont plus élevées par rapport à la campagne.
Les préoccupations relatives au changement climatique sont de plus en plus présentes dans la société, Et donc, je me demande si cet îlot de chaleur est une conséquence du changement climatique ou si c'est lié juste à comment on a construit nos villes et si il va s'aggraver si on ne change pas nos villes.
Alors, en soi, c'est pas une conséquence du changement climatique. C'est vraiment une conséquence de l'activité humaine et de l'organisation humaine, donc qui forcément se regroupe dans les villes. Puisque en fait, c'est vraiment l'imperméabilisation des sols qui va provoquer cette différence de température avec la campagne, puisque tu as moins de végétation. Et donc forcément, il n'y a pas cet effet d'évapotranspiration qui est amené par la végétation. Mais par contre, dans le futur, oui, justement, le GIEC, donc le Groupement International d'Experts sur le Climat, il commence à s'y intéresser assez fortement, puisqu'en fait, tu as des risques pour les populations, tu as des enjeux qui sont très forts d'un point de vue sanitaire, également aussi d'un point de vue énergétique, par exemple, puisque en fait, tu vas avoir tendance à augmenter la climatisation en ville, puisque forcément il va faire plus chaud, mais sauf que cette climatisation a un effet un peu pervers, puisqu'en fait il va augmenter l'îlot de chaleur urbain, puisqu'il va relarguer de la chaleur, etc. etc. Donc en fait, tu as des enjeux qui sont extrêmement forts d'un point de vue vraiment des populations, d'un point de vue sanitaire. Et oui, dans le futur, on sait qu'il va avoir un impact, comme je le disais, par rapport à ces vagues de chaleur qui vont être de plus en plus présentes sur nos territoires, puisqu'on va avoir de plus en plus d'événements extrêmes qui vont être amenés en fait.
Comme Charlotte nous explique, les îlots de chaleur urbains peuvent anticiper l'apparition des fleurs et des feuilles sur les arbres. On se demande si et pourquoi cette anticipation est grave.
Ça peut être grave si, par exemple, il se développe plus tôt. Il va peut-être être sujet à avoir des gelées tardives, tu sais, comme on a eu cette année, par exemple. En fait, on a eu des gelées extrêmement tardives jusqu'en avril, sauf que tu avais déjà des arbres qui avaient ce qu'on appelle débourré, donc qui avaient sorti leurs premières feuilles, et sauf que, bah, en fait, ces feuilles, elles ont tout simplement brûlé, parce qu'en fait, avec le gel, l'arbre n'a pas supporté, et derrière, ça va fragiliser cet arbre. Et donc, du coup, forcément, derrière, au bout de plusieurs années, peut-être que ça va jouer sur sa durée de vie. Puis même, il va peut-être être sujet même à plus de maladies. On a notamment, aujourd'hui, on a énormément de problématiques au niveau du châtaignier, par exemple, qui a un champignon qui est extrêmement nocif pour lui, enfin, qui le tue clairement et qui est totalement lié en fait au changement climatique.
Charlotte nous explique qu'il est plus juste de parler de changement climatique plutôt que de dérèglement climatique, car les règles qui régissent le climat ont toujours existé et continuent à être valables. Et c'est justement l'existence de ces règles qui permet de modéliser le climat et de simuler comment il évolue. Grâce à des modèles, on peut avoir une idée de comment les températures et autres facteurs climatiques vont changer dans le futur. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estime une augmentation déjà inévitable de la température de la planète à 1,5 degré d'ici 2030. En 2100, si nous maintenons le rythme d'émission actuel, la température moyenne aura augmenté de 2,7 degrés. Dans la mesure où le changement est inévitable, et c'est un consensus scientifique, il faut pouvoir adapter nos villes, qui seront certainement soumises à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Charlotte nous explique qu'il existe deux types de solutions à ça. Les premières sont les solutions grises, pour lesquelles on va changer le type de matériaux à la surface des bâtiments ou simplement leur couleur. Comme ça, on peut faire en sorte qu'elles réfléchissent davantage la lumière au lieu de l'absorber, la stocker et la restituer en chaleur la nuit. Un deuxième type de solution, plus naturelle, est aussi possible.
Au niveau solution, la solution pour moi qui est la meilleure, c'est la solution verte. Donc forcément, ça va être de mettre plus de végétation en ville, le végétal vraiment en place, vraiment au centre des villes, replanter des arbres qui sont capables justement de résister aux vagues de chaleur et aux changements climatiques, et aussi des murs végétalisés, tu as des toitures végétalisées, rendre en fait la ville plus verte, et éventuellement aussi désimperméabiliser les sols. Ça commence à venir aussi, c'est très très présent dans les nouvelles politiques urbaines. Ça va être vraiment justement d'enlever cette couche de béton qui va faire en sorte que l'eau ruisselle au lieu de s'infiltrer dans le sol, et donc de mettre des matériaux qui vont être poreux, donc qui vont être capables de percoler l'eau, donc de l'amener dans le sol, et donc voilà, d'éviter en fait que ce sol soit complètement imperméabilisé, tout simplement quoi.
Adapter nos villes au changement climatique est un enjeu majeur, puisque plus de 80% de la population française vit dans des centres urbains. Ce sont des études comme celles que Charlotte mène qui nous permettront de sélectionner les bonnes essences de végétaux, résistantes aux vagues de chaleur et capables de rafraîchir les villes. Avant de pouvoir consacrer 3 ans de thèse à ce sujet, Charlotte a dû faire preuve de ténacité pour obtenir une bourse. En effet, elle nous explique que ses premières candidatures n'ont pas abouti. Mais même si ces échecs ont pu être des coups durs pour sa motivation et sa confiance, elle ne s'est pas laissée décourager.
J'ai postulé d'abord à une première thèse, mais au final, j'étais clairement pas prête pour ce sujet. En fait, la candidature, c'était à l'école doctorale, donc STT, Société, Temps, Territoire, voilà. Donc, en gros, tu te présentes vraiment devant un jury, en fait, de 13 personnes, il me semble. Et en final, j'étais vraiment pas prête pour ça. Et du coup, forcément, c'est pas passé. Je me suis beaucoup remis en question par rapport à ça et je me suis dit qu'il fallait mieux quand même que je construise mon sujet, voilà, quelque chose qui m'intéresse et que là, ça passerait.
Suite à cette première tentative, Charlotte change de stratégie. Au lieu de candidater à une offre de thèse sur un sujet déjà défini, c'est elle qui propose son sujet à l'école doctorale en charge du financement des bourses de thèse. Elle structure son sujet de thèse avec le soutien d'un enseignant-chercheur qui est aujourd'hui son encadrant. Mais aussi pour cette deuxième tentative, elle n'obtient pas de bourse. À ce moment précis, elle doute d'elle-même et se demande si elle doit poursuivre en thèse. Mais cette fois non plus, Charlotte ne se décourage pas, mais se demande vers qui se tourner. Et après une réponse négative de la métropole de Rennes, elle arrive enfin à décrocher un financement pour 3 ans, dont 50% sont financés par la région Bretagne et 50% par l'école doctorale. Pendant ce long processus de candidature et de sélection, Charlotte a pu s'entourer des personnes qui la soutiennent. Mais voilà, elle a aussi dû prouver aux personnes qui ne croyaient pas en elle qu'elle en était capable de décrocher un financement de thèse.
Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi. Donc c'est vrai que passer ce genre de candidature et se présenter à des oraux comme ça, c'est quelque chose qui est très très compliqué pour moi. Donc je me prépare énormément. Je me suis préparée la deuxième fois pour l'école STT. Je me suis préparée pendant au moins 2 semaines en fait. Pour présenter mon sujet. Et après, d'un point de vue personnel, j'ai quelqu'un qui me motive énormément aussi dans ma vie privée. Mais c'est vrai que en dehors de ça, parfois les personnes sont pas forcément très, elles ont du mal à me soutenir. Et j'ai même des personnes qui m'ont dit qui aurait cru que tu arriverais aussi loin. Donc parfois c'est un petit peu dur.
Quel est l'effet, par exemple, quand quelqu'un te dit t'y arriverais jamais?
Alors ça dépend qui le dit. Si c'est quelqu'un pour qui j'ai pas d'estime parce que au final je le connais que très peu, il peut dire ce qu'il veut, ça me fera ni chaud ni froid. J'ai réussi à mettre des barrières comme ça parce que j'étais quelqu'un de d'hypersensible quand j'étais petite. Enfin, je le suis toujours, mais du coup je me mets des barrières et je dis toi je m'en fous, toi ok, toi ton avis compte, toi non. Enfin voilà, il faut savoir se mettre des barrières, se protéger.
Comme nous le dit Charlotte, pour se protéger, elle a appris à se détacher du jugement de certaines personnes négatives, voire toxiques. Charlotte a aussi fait face à une autre barrière dans sa carrière, celle des discriminations liées à l'orientation sexuelle. Elle a été contrainte de renoncer à des opportunités du fait de son homosexualité, avec cette même nécessité, se protéger.
Après oui, je me suis des fois mis des barrières, par exemple, en tant que femme homo. J'ai pu avoir l'opportunité de partir à l'étranger, mais en sachant que ces pays avaient une certaine fermeture d'esprit envers les femmes et envers les gays, je me suis mis des barrières là-dessus en me disant que non, du coup je ferais pas d'échange au final, alors que c'était des pays extrêmement intéressants, notamment le Brésil, mais où là il y avait à ce moment-là en fait une recrudescence d'assassinats et de violences faites envers les personnes homo et autres de la communauté LGBT. Et je me suis mis des barrières.
Suite à ce que Charlotte nous dit, on se rend compte que d'un côté, il peut y avoir des discriminations directes subies en rapport avec l'orientation sexuelle, mais de l'autre côté, aussi la peur d'être discriminée, et les chercheurs et les chercheuses appellent ça discrimination anticipée, peut aussi amener à éviter des interactions sociales qui peuvent être essentielles à l'avancement de la carrière et à la satisfaction au travail. Pour Charlotte, le sujet de son homosexualité est venu naturellement et sans préjugés avec ses encadrants.
J'ai essayé de le cacher, en fait, on va dire jusqu'au master. Et c'est mon directeur de stage à l'époque, de dernière année, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Enfin, voilà. Et il m'a fait comprendre, sans le dire vraiment, mais il m'a fait comprendre que voilà, il n'y avait pas de problème. Et du coup, ça m'a totalement ouvert. Je me suis dit, ok, ouais, bon, bah, pas de souci là-dessus. Et au final, oui, avec mes directeurs de thèse, oui, ça s'est très bien passé aussi. Enfin, il n'y a même pas eu de questions qui se sont posées, tu vois. J'en ai parlé très, très facilement. Après, je pense que c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Je pense qu'il y a d'autres personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui sont assez fermées sur ces questions-là. Donc, ils peuvent pas forcément, s'ils encadrent des personnes, ils peuvent pas forcément le dire. Enfin, je pense à des gens, mais que je ne citerai pas, qui, je pense, sont très fermés sur cette question-là encore au sein de l'université.
Et quel conseil tu pourrais donner justement à des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui sont dans ces situations et qui ne sentent pas à l'aise forcément face à ça? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil?
Que c'est à eux de choisir surtout quand le faire, et c'est pas aux autres aussi de le dire, parce que des fois, il y en a qui sont outés sans le vouloir dans le milieu professionnel. Et que, enfin, surtout qu'il faut pas se prendre la tête. Et si t'as envie de le dire, tu le dis. Après, faut aussi que le milieu soit favorable à ça. Donc, forcément, faut des fois un petit peu tâter le terrain, on va dire. Mais clairement que, en général, les personnes finissent par, elles ont souvent des a priori. Et puis au final, elles finissent par se dire, ouais, en fait, c'est débile, quoi. J'ai eu le cas en licence 1, où c'était la question du mariage pour tous. C'était des personnes qui étaient très fermées au mariage pour tous. Et qui étaient en cours avec moi. Et moi, je leur ai dit que voilà, bah, ça m'emmerdait qu'ils disent ça, quoi, et que, parce que j'étais concernée. Et au final, ça les a calmés. Et au final, derrière, bah, j'ai vu qu'ils s'ouvraient en fait à cette question-là et qu'il n'y avait plus trop de questions. Ça se calmait en fait à ce niveau-là. Ça avait enlevé leurs préjugés.
Dans son parcours, Charlotte a été inspirée par des enseignants-chercheurs qu'elle appelle ses rockstars scientifiques. Elle donne elle-même désormais des cours à la fac de géographie. Et elle est très investie dans cette facette de son métier. Elle a à cœur d'apporter aux étudiantes et étudiants un soutien dont elle a elle-même bénéficié dans son parcours. On lui demande si elle perçoit des différences du fait du genre lorsqu'elle donne des cours.
Ce que je peux voir, c'est que oui, les femmes, en tout cas les jeunes femmes, ont tendance à être plus stressées. Alors je ne sais pas si c'est une généralité, mais en tout cas c'est ce que j'ai vu. Et en général, je vais avoir une tendance en tant qu'enseignante à essayer de les rassurer, à leur dire que de toute façon, moi, je suis pas là pour les saquer, que enfin tout ira bien, quoi, qu'on va y aller pas à pas et que tout ira bien. Et en général, enfin en tout cas, c'est l'impression que j'ai l'impression que ça les rassure et ça les détend et au final, elles posent plus les choses parce que je suis vraiment sur des cours là cette année qui sont extrêmement techniques et au final, je vois que au final, ça leur permet de plus poser, voilà, de moins stresser quand j'arrive pour voir où elles en sont, etc. Après, voilà, c'est peut-être pareil, un biais de ma part hein, de remarquer ça, c'est possible aussi. Hein. Pour donner une petite anecdote aussi, j'avais remarqué que tu vois, l'année dernière, je donnais un cours donc plus théorique. Et en fait, j'avais une jeune femme dans ma classe qui est venue me voir une fois à la fin, en fait, tremblante, vraiment pas bien. Et en fait, elle avait loupé un des examens, sans le vouloir, elle avait loupé un des examens de ce cours-là. Donc, en fait, elle avait que la moitié de cette note. Et j'ai ressenti, tu vois, quand elle m'a envoyé un mail, j'ai ressenti que ça allait pas. Et du coup, moi, je l'ai rassurée en lui disant, tu lâches pas, voilà, tu vas au rattrapage, etc. Et cette année, en fait, je l'ai retrouvée en L2, dans un autre de mes cours. Et je trouve ça trop cool, quoi. Tu vois, ça m'a fait un bien, mais fou, quoi. Mmh. De voir, au final, en plus, ça a été posé, tu vois, rassurée. Très à l'aise, et je me suis dit, ah, elle a réussi, elle a franchi un pas, et au final, elle a plus confiance en elle. Et je me suis dit, c'est cool, quoi. Alors, je sais pas si c'est moi ou pas, mais en tout cas, j'ai fait mon job et j'espère que ça a joué.
L'exemple qui nous donne Charlotte nous montre comment une éducation différente a pu aider une étudiante à prendre confiance. Et ce n'est pas qu'un cas isolé. Comment nous les montre le rapport de l'UNESCO qui s'intitule « Déchiffrer les codes, l'éducation des filles et des femmes au STEM ». Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ces rapports mettent en évidence comment l'éducation joue un rôle essentiel pour faire naître et réconforter l'intérêt des filles pour les matières STEM. Et dans ces contextes, les genres des enseignants semblent faire une différence. Les enseignantes ont une influence positive sur les performances des filles et leur poursuite d'études. Les filles semblent aussi mieux réussir quand les enseignants attendent beaucoup d'elles et les traitent sur un pied d'égalité et sans les stéréotypes fondés sur les genres, comme par exemple l'idée que les filles sont bonnes en langue et les garçons en maths. On demande à Charlotte si ces sujets des stéréotypes et des biais liés au genre est abordé dans son équipe de recherche.
Je pense que ça se développe surtout, qu'on commence vraiment à en discuter. La preuve, nous on a enfin une déléguée justement à ces questions-là au sein de l'université. Je pense que ça commence à venir, je ne sais pas si ça l'est assez, je ne sais pas quelle méthode encore ils mettent en place, mais en tout cas ça commence à venir. Donc c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'ils se posent des questions et qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des biais et qu'il faut essayer de comprendre et d'améliorer la situation.
Justement, tu disais qu'on commence à discuter de ces sujets dans les équipes de recherche aussi et dans les communautés scientifiques. Pour toi, personnellement, comment on pourrait mieux parler de ces sujets-là ?
Je pense que ce serait intéressant déjà de faire des tables rondes, d'en discuter tous ensemble, du coup de pouvoir y réfléchir ensemble et de proposer des solutions ensemble et surtout communes, quoi, pour que ce soit accepté par tous. Parce que le problème, c'est que ce soit accepté par tous aussi. Parce que si il y a que la moitié qui suivent au final des recommandations, au final, ça va jamais marcher. Et éventuellement de parler aussi de ces expériences propres, sans animosité, en fait, même en disant, tu vois, à une personne, en disant, bah là, tu vois, ça, un jour, tu m'as fait ça, bah, ça, c'était une réponse qui était sexiste, ou voilà.
Bah, dans ce que tu dis, je trouve intéressant le fait de se mettre autour d'une table, parce qu'en fait, moi, des fois, j'ai ressenti des comportements qui me mettent mal à l'aise, mais qui sont pas forcément reconnus de la part de l'autre personne que j'ai en face. Et ce sont des choses toutes bêtes, mais par exemple, le fait qu'autour d'une table, si on parle d'un discours scientifique, et c'est notamment beaucoup plus souvent les hommes qui prennent la parole, tu peux savoir beaucoup sur ces sujets-là. Mais en fait, tu sors de cette discussion et c'est quand même toi qui a moins parlé. Mmh. Et les gens vont sortir de là en pensant, bah voilà, elle a rien dit, c'est parce qu'elle connaît rien. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle aussi ?
Non, je pense que t'as souvent, en fait, en tout cas, plus les femmes, on va avoir tendance à se mettre en retrait. Après, même dans la société, hein, aujourd'hui, on voit bien que quand il y a des débats, ceux qui prennent principalement la parole, même dans un groupe d'amis, hein, tu vas le voir tout de suite, ça va être les personnalités fortes qui savent se mettre en avant, qui ont confiance en elles, même si c'est pour dire des choses qui sont complètement stupides. Et en général, pas tout le temps, hein, mais en général, ce sont quand même plus des personnes qui sont de sexe masculin. Masculin, pardon. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est aussi visible, évidemment, dans ce genre de, comme tu dis, de structure, puisque, oui, moi, je l'ai déjà remarqué, même il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait un séminaire et au final, tu avais des tables rondes pour trouver des communs accords, justement, sur comment créer un certain type de données. Et il y avait des femmes, hein, mais c'était un débat entre hommes, quoi.
Et même, ouais. Je veux dire, plus ou moins à statut égal, quoi.
Mm. Totalement.
Parce que
exactement.
Des fois se rajoute la hiérarchie ou l'aspect, ouais. Mais à statut égal, quand c'est le cas, c'est dérangeant encore plus.
Ouais.
Elle nous parle également de la tendance qu'ont les femmes à se mettre plus en retrait, pour le coup, dans ces situations. Et on se demande alors si, en plus des discussions collectives évoquées par Charlotte, est-ce qu'imposer des règles de manière plus directive pourrait aussi faire partie de la solution ?
Alors, je pense que oui, mais encore une fois, avec beaucoup de communication. Parce que si les personnes trouvent que c'est pas légitime de le faire, donc étant donné qu'en général ces personnes-là seront forcément en général des hommes, s'ils trouvent que c'est pas légitime de le faire, bah ils le feront pas au final. Donc ou alors faudrait qu'ils soient vraiment fliqués pour ça. C'est pour ça qu'il faut énormément de communication, expliquer pourquoi, comment et mettre en place le système, peut-être de manière douce, on va dire, qu'il se soit pas frontal, quoi. Mais oui, je pense que il y a tout intérêt à instaurer des règles pour justement régler ces problèmes, quoi.
Et j'ai l'impression, en tant qu'homme, qu'il ne soit pas seulement un problème de communication, mais soit vraiment un problème de ne pas vouloir renoncer à certaines choses.
C'est certains parce privilèges.
Que, ouais, parce que ces côtés que vous avez bien dit de mecs dans la salle qui parlent, et c'est seulement eux qui parlent, de renoncer à ça, c'est pas juste d'écouter pour moi. Et je parle en tant qu'homme, hein, qui des fois je retombe aussi dans ce mécanisme-là, mais c'est de dire en quelque sorte tu dois te taire, tu dois renoncer à ta parole pour la laisser à d'autres personnes. Et donc c'est pas juste de le communiquer, mais c'est d'intégrer pour moi personnellement.
C'est déconstruire.
Exactement.
En tant qu'homme. Eh oui. C'est une question qui est beaucoup mise en avant en ce moment, de toute façon, dans la société. Mais oui, savoir se déconstruire et se dire que ben, ça, tel comportement, il faut éviter. Pourquoi? Et pourquoi c'est pas bien, surtout. Et comment faire pour favoriser, en tout cas, instaurer une certaine égalité. Pas favoriser, mais instaurer une égalité. Mais moi, déjà, ce que j'aimerais bien que la plupart des personnes, bon, en général, c'est les hommes, mais la plupart des personnes sexistes se rendent compte, c'est qu'elles le sont, en fait, et qu'elles se posent la question, comment je peux faire pour changer, tu vois.
On discute aussi avec Charlotte de notre objectif de lutter contre l'invisibilisation des femmes dans le monde scientifique. Mais on se rend bien compte que de parler de genre d'une manière binaire soulève des problèmes. Nous aussi, avec ce prisme, on participe à l'invisibilisation de toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette binarité, alors qu'on se veut avoir un discours inclusif. On parle avec elle de quelques mesures simples qui peuvent être prises par les universités et qui peuvent déjà envoyer des signaux positifs à l'égard de toutes les minorités de genre, ne serait-ce qu'en montrant que leur existence est bien reconnue.
Alors à l'université, enfin en tout cas à Rennes 2, on a la chance, enfin la chance. En tout cas, il y a des avancées qui sont faites à ce niveau-là. Déjà, ils proposent pas que hommes ou femmes dans leur bulletin d'inscription, ils proposent aussi autres. Donc c'est sûr, c'est pas intersexe, c'est pas agenre, etc. C'est pas des termes qui sont vraiment spécifiés. Mais déjà, c'est quelque chose. Et ils proposent aussi pour les personnes qui sont transgenres d'utiliser leur nom d'usage plutôt que d'utiliser leur nom de naissance. Je trouve que déjà, c'est agréable à voir parce que quand tu vois encore des mademoiselles ou des noms de jeunes filles qui apparaissent sur des bulletins institutionnels, enfin des formulaires, c'est juste pénible, quoi. Moi, je trouve que le langage inclusif, c'est quelque chose qui serait super, en tout cas pour inclure tout le monde. Justement, pour ôter aussi cette binarité entre hommes et femmes, parce que forcément, c'est encore extrêmement binaire. Je pense qu'à terme, pourquoi pas même rédiger ma thèse comme ça, si certaines personnes sont ouvertes à ce genre de procédé. Enfin, moi, je pense que ce serait clairement une bonne chose. En plus, on en revient en ce moment encore à en discuter, machin, etc., toujours. Et au bout d'un moment, les gars, faut y aller, quoi. Et c'est d'un point de vue politique, je parle. C'est pas grave. Et au contraire, je trouve que c'est très intéressant de voir que la langue française peut évoluer de manière totalement neutre, en fait. Et ce serait vraiment, vraiment super.
Bah, du coup, si on veut finir sur une note positive, si tu devais t'adresser aux auditrices et aux auditeurs, quel conseil tu souhaites leur partager ?
C'est surtout croire en eux, de connaître ses capacités aussi, de pas tout le temps se descendre en se disant oui mais regarde machin il est meilleur que moi. Non, toi tu sais le faire, tu y arrives aussi, donc il y a pas de raison que tu puisses pas le faire. Et surtout c'est ça qui est primordial, hein, c'est de croire en soi et de travailler pour ça. Et puis si tu y arrives pas, c'est que c'était pas pour toi. Voilà, c'est que ce sera autre chose, c'est pas grave.
C'était Women in Copernicus Podcast, une émission conçue et réalisée par Roberta, Marie, Guglielmo et Gwenaël, en collaboration avec le collectif Women in Copernicus et la Radio Célab. Musique et habillage sonore de Romain Leduc. Retrouvez les prochains épisodes tous les 15 jours, les mardis de semaine paire à 18h, sur Célab, la radio sauvage.